Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 13h ici à Paris, 1h de moins en temps universel.
RFI Midi, Simon Bourtembourg.
Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer et à la une de cette édition, le chancelier allemand à Magdebourg pour rendre hommage aux victimes de l'attaque à la voiture Bélier d'hier soir. Une nouvelle fois dans le pays, c'est un marché de Noël qui a été visé. Les autorités allemandes annoncent un nouveau bilan de 5 morts et de plus de 200 blessés. Le suspect a lui été interpellé. On appelle notre correspondant en Allemagne dès le début de ce journal. Mayotte, assoiffée et à court de carburant, Emmanuel Macron a promis le retour aujourd'hui de l'eau sur la quasi-totalité de l'archipel. Pour ce qui est de l'essence, des restrictions sont en place. La priorité va aux véhicules des autorités et des secouristes. Reportage à suivre de notre envoyé spécial à Mayotte. Dans l'Hexagone, la mairie de Paris tire un bilan encourageant du passage à 50 km/h du périphérique, même si les automobilistes ne semblent pas convaincus. Et puis dans 10 minutes, le journal des sports et un tour complet des pelouses européennes.
RFI Midi.
Olaf Scholz est donc arrivé à Magdebourg en Allemagne, le chancelier dans une ville meurtrie hier soir par une attaque à la voiture Bélier. Une nouvelle fois en Allemagne, c'est un marché de Noël qui a été visé. Une voiture a foncé à vive allure dans la foule. Le bilan provisoire a grimpé à 5 morts et plus de 200 blessés. On rejoint notre correspondant en Allemagne. Pascal Thibault, le chancelier a promis d'agir contre ceux qui veulent semer la haine.
Oui, effectivement, le chancelier a dénoncé cette attaque, promis que la justice condamnera l'auteur de l'attaque avec tous les moyens juridiques disponibles, mais il a aussi appelé ses concitoyens à ne pas se laisser convaincre et infecter par la haine, et a appelé au contraire à rester soudés dans l'adversité. Le chancelier était donc sur place, aux côtés du ministre-président de la Saxe-Anhalt, dont Magdebourg est la capitale, mais également avec le chef de l'opposition, le président du parti chrétien-démocrate Merz, qui a aujourd'hui de bonnes chances de succéder à Olaf Scholz dans 2 mois. Ils ont déposé ces différents responsables des gerbes au pied d'une église voisine des lieux du drame, ce que beaucoup d'habitants de Magdebourg avaient fait déjà avant eux. Sur l'auteur de l'attaque, on en sait désormais un peu plus. On sait que c'est un quinquagénaire d'origine saoudienne qui disposait d'un titre de séjour en Allemagne, mais son profil interroge, car ce psychiatre formé en Allemagne était aussi un adversaire résolu du régime saoudien, qui visiblement est devenu de plus en plus hostile à l'islam et a dénoncé le risque d'islamisation en Allemagne, se rapprochant par cela également des thèses de l'extrême droite. On ignore encore ce qui l'a finalement poussé à une telle attaque hier soir.
Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne, merci à vous. La guerre en Ukraine et la ville de Kazan cible des drones ukrainiens aujourd'hui. Aucune victime n'est à déplorer, mais les médias russes rapportent que l'aéroport de la ville a été provisoirement fermé. La Russie, de son côté, revendique la prise d'un village dans une zone clé de l'Est ukrainien. La lutte reste donc âpre sur le front et le coût humain de la guerre important. Kiev annonce avoir récupéré plus de 500 corps de soldats tombés au combat, le fruit d'un échange avec la Russie, le 4e rapatriement de ce type annoncé officiellement depuis octobre. Correspondance à Kiev, Emmanuel Chaz.
De bonnes nouvelles juste avant Noël, c'est ainsi que Dmytro Loubinets a annoncé les résultats de sa dernière interaction avec son homologue russe. Comme cela avait déjà été le cas il y a quelques semaines, un nouvel échange de corps de soldats tombés sur la ligne de front a eu lieu. 503 corps ont ainsi été rendus à l'Ukraine, la plupart étant des soldats tombés dans la région de Donetsk. Après identification, leurs dépouilles seront remises à leurs familles. Autre annonce de Kiev, 1500 colis et lettres destinées aux prisonniers de guerre ont été remises à la Russie pour les captifs ukrainiens, sachant que ce droit leur avait été jusqu'à présent refusé. Kiev ne précise pas comment l'Ukraine pourrait obtenir des preuves que ces colis parviennent bien à destination, alors que des milliers de prisonniers de guerre ukrainiens sont détenus dans des conditions contraires au droit international, puisqu'ils sont affamés, torturés et privés de contact avec leurs proches au cours de leur captivité, comme l'attestent ceux d'entre eux qui réchappent au système carcéral russe. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
En Syrie, le Qatar rouvre son ambassade à Damas et hisse son drapeau dans la capitale syrienne. On y revient dans un peu plus de 10 minutes avec notre invité Arthur Kinney, docteur en sciences politiques affilié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En Israël, la banlieue de Tel Aviv visée cette nuit par de nouveaux tirs des Houthis. Des tentatives d'interception ont été menées sans succès, reconnaît l'armée israélienne. Le missile s'est écrasé à Jaffa, au sud de Tel Aviv. Les vitres d'immeubles du quartier ont volé en éclat, 16 personnes ont été blessées. En bref, ce drame de la route en Iran, au moins 10 personnes sont mortes dans un accident de bus dans l'ouest du pays. Des équipes d'aide et de secours ont été envoyées dans la région. À la télévision iranienne, le responsable local du Croissant Rouge a indiqué que le bus était tombé dans un ravin. Mayotte assoiffée et à court de carburant. Au terme de sa visite dans l'archipel dévasté par le cyclone Chido, le président français avait pourtant promis le raccordement au moins de façon partielle des foyers à l'eau et ce, dès ce samedi. Il s'agit de la priorité des priorités, a martelé le chef de l'État. Pour ce qui est de l'essence, des stocks sont réservés aux véhicules prioritaires. Pour les autres, les attentes et les files se forment aux abords des stations-service. À Mamoudzou, le reportage de Nicolas Feldman et Jade El-Khoury.
La file de voitures sur le bas-côté s'étend sur quelques kilomètres sous les manias patientes depuis la veille pour faire son plein.
Ça fait plus de 20 heures qu'on est là et nos véhicules sont encore derrière. Moi, j'ai du mal à comprendre quand on est dans une île où on a quand même Total qui a le monopole quand même sur l'île. On aurait pu quand même faire un peu d'effort.
Le manque d'essence touche toute la population tout près de la pompe, une trentaine de personnes patientent avec des bidons.
L'essence, on va les mettre dans une monteur pour le générateur électrique. En fait, parce que le congélateur, il n'y a plus l'alimentation, ça va pourrir. C'est pour ça qu'on est venu chercher de l'essence. Il y a des limites, ils ont dit 30 litres, c'est bon, il n'y a pas plus.
Les policiers répartissent les automobilistes. À droite, une file est réservée aux véhicules prioritaires.
Police, gendarmerie, infirmières, les agents pénitentiaires et autres.
C'est le cas aussi des agents de la compagnie des eaux. Ce salarié peut remplir sa voiture.
Nous, c'est la SMAE. Donc la SMAE, c'est service tout ce qui répare les tuyaux, tout service et tout ce qui est de l'eau. S'occupe de l'eau.
L'essence, comme tout à Mayotte, est une denrée rare. Si les prix des carburants ont été bloqués par l'État, au marché noir, le litre pourrait se revendre entre 3 à 4 fois plus cher. À Mamoudzou, Nicolas Feldman, Jade El-Khoury, RFI.
Après Mayotte, le président français, maintenant à Djibouti, Emmanuel Macron a partagé hier le repas de Noël avec les 1700 soldats français présents dans la plus grande base militaire en Afrique. Le chef de l'État français a annoncé que cette base de Djibouti allait se réinventer comme un point de projection pour les missions françaises en Afrique. Emmanuel Macron qui va à présent s'envoler pour Addis Abeba. Un premier bilan riche d'enseignements. Après l'abaissement de la vitesse maximum sur le périphérique parisien de 70 à 50 km/h, les objectifs semblent en passe d'être tenus. Moins de bouchons, moins d'accidents, moins de pollution et moins de bruit. L'initiative parisienne est regardée de près ailleurs dans le monde. Simon Rosé, de nombreuses autres mégalopoles souhaitent, comme Paris, réduire la place de la voiture.
Et oui, moins 20% de bouchons, moins 20% d'accidents, un bruit diminué de moitié, un quart de particules fines en moins et des rejets de dioxyde d'azote en diminution. Diminution de 13%. Les effets de la réduction de la vitesse maximum sur le périphérique parisien sont là et pas au détriment des automobilistes. La vitesse moyenne et le nombre de véhicules sont eux restés stables. Une évaluation réalisée sur les mois d'octobre et novembre 2024, les deux premiers complets depuis l'entrée en vigueur de la mesure et comparée avec la même période l'an dernier. Il manque cependant encore des données sur les autres grands axes pour voir si une partie des nuisances s'est reportée sur d'autres portions de la voirie parisienne. Cela dit, les premiers enseignements sont donc bons et sont suivis non seulement par l'exécutif de la capitale française mais également par d'autres grandes villes dans le monde, principalement en Europe, où des mesures similaires sont engagées ou en projet. Oslo roule elle aussi à 50, Copenhague l'envisage et des villes comme Berlin, Madrid ou Rome ont déjà abaissé les vitesses limites de leur périphérique à 70 ou 80 km/h.
Simon Rosé du service environnement climat de RFI, merci à vous. Toujours en France, l'EPR de Flamanville n'est toujours pas raccordé au réseau. L'opération inédite depuis 1999, initialement prévue hier matin, n'a pas encore eu lieu. Le raccordement au réseau de l'EPR doit marquer un aboutissement pour ce chantier qui accuse 12 ans de retard. RFI, 13h, bientôt passé de 10 minutes ici à Paris. Nous sommes encore ensemble pour 20 minutes. À suivre notre reportage international en Syrie, dans le nord-est du pays, où les combats entre les forces pro-turques et les forces armées kurdes ont forcé beaucoup de civils à l'exode. On parlera aussi du nouveau pouvoir en Syrie et de son désir de contribuer à la paix régionale. On en parlera avec Arthur Quenet, docteur en sciences politiques, affilié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et puis dans 10 minutes, la chronique transport, mais avant ça, les sports. Le journal des sports avec vous, Olivier Pron, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Et beaucoup de football au programme, juste avant les fêtes, et ça commence dans 20 minutes en Angleterre avec la 17e journée de Premier League.
Avec un rendez-vous quasi capital, Simon, pour Manchester City, qui se déplace à 12h30, temps universel, à Aston Villa, le 7e qui accueille le 5e, et City en apnée, qui n'en finit plus de creuser un trou béant avec la tête du classement. Autrement dit, Liverpool, 9 points devant avec un match en moins, une victoire en 11 matchs depuis le 30 octobre pour les Sky Blues, pour 8 défaites et 2 nuls, toujours la même histoire. Pep Guardiola et ses troupes ont cru enfin en regagner dimanche dernier, mais l'entraîneur espagnol a vu le derby de Manchester lui échapper en toute fin de rencontre.
Nous sortons d'un match que nous avons perdu, alors que nous étions sur le point de l'emporter. Dans ces circonstances, effectivement, je n'étais pas content. Mais quand on est tombé 6 fois, il faut se relever 7 fois. Il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr, il faut réessayer et recommencer. Et tôt ou tard, la roue va tourner. Je ne sais pas quand, parce que nous avons toujours les mêmes problèmes dans l'équipe. Ruben Dias est absent pour longtemps. Et Ederson, je ne sais pas s'il sera apte. Nous devons donc persévérer, c'est tout ce que nous avons à faire.
Le City de Pep Guardiola chez les vilains, c'est dans 20 minutes, on l'a dit. Un peu plus tard, cet après-midi, Nottingham Forest, surprenant et rafraîchissant, 4e de cette Première Ligue, se déplace à Brentford, le 11e. Et puis à 17h30, TU Arsenal, 3e, sera lui à Crystal Palace, qui n'est que 15e. Demain, Everton, Chelsea et Tottenham, Liverpool.
Une grosse affiche également en Espagne, Olivier, au sommet de la Liga, cette fois pour la 18e journée.
Et peut-être un tournant, hein, Simon, dans la course au titre. Barcelone, leader à la différence de buts avec un match en plus, reçoit son dauphin, un Atlético Madrid en feu. 11 victoires de rang, toutes compétitions confondues, plus une défaite depuis le 27 octobre. Au Barça, après des débuts quasi parfaits, les Blaugrana commencent à caler en championnat. Ils n'ont remporté qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres. Les joueurs d'Hansi Flick qui ont notamment perdu contre les Ganes au dernier match et ils s'étaient inclinés contre Las Palmas il y a quelques semaines, à chaque fois à domicile. Mais l'entraîneur allemand préfère relativiser avant ce choc contre l'Atlético d'Antoine Griezmann.
Lorsque nous avons débuté notre préparation au début de l'été, si quelqu'un m'avait dit qu'au 20 décembre nous serions premiers en Liga et deuxième en Ligue des Champions, j'aurais signé tout de suite. Nous avons perdu des points et ça a été compliqué sur ces derniers matchs face à Leganés, face à Las Palmas. Ce sont des adversaires que l'on doit battre, mais je dois les respecter et avouer qu'ils ont mérité leur victoire. Ils ont été meilleurs que nous.
Barça Atlético, c'est à 20h, temps universel. Demain dimanche, le Real recevra le FC Séville.
Et pendant ce temps-là, en France, début hier des 32e finale de la Coupe.
Oui, et leur nombre de matchs importants et leurs toujours très improbables affiches, hein, quand les petits se frottent aux grands. Au Lyonnais, pensionnaire de National de la 4e division, reçoit Toulouse, par exemple, cet après-midi, Ligue 1. Même écart entre les nordistes de Fény-Aulnois qui accueillent Lyon à Valenciennes. C'est pas très loin de chez vous, ça. Un tout dernier mot de ski, l'Autrichienne Cornelia Hutter a remporté ce matin le Super G de Saint-Maurice, 8e victoire de sa carrière en Coupe du Monde, c'est bien, mais cette course a été marquée par la folle performance de l'américaine Lindsey Vonn, 40 ans et 14e pour son grand retour après 5 ans d'absence.
Olivier Pron pour le Journal des Sports, merci à vous et l'actualité sportive à retrouver évidemment à chaque instant sur le site internet www.rfi.fr. Et je vous le disais dans le journal, on revient sur midi, sur ces combats qui se poursuivent dans le nord de la Syrie, presque 2 semaines après la chute de Bachar al-Assad dans cette partie du pays. Avant même l'offensive menée par HTS, les forces pro-turques avaient déjà comme principal objectif d'éloigner les forces armées kurdes et de créer une zone tampon à la frontière entre les deux pays. Ces combats ont poussé de nombreux civils à l'exode. Beaucoup se sont réfugiés dans la ville de Tabqa. Le stade de la ville accueille d'ailleurs un camp de réfugiés, mais des milliers de personnes manquent à l'appel. Reportage de notre envoyé spécial dans le nord de la Syrie, Marie-Charlotte Roupy.
Tout au bout du terrain battu par les vents, où s'est installé le camp de déplacés de Tabqa, la tente de Shinaz est désespérément vide. Quand ils ont fui le canton de Shahba, au nord d'Alep, avec son mari et ses enfants, ils étaient 5. À l'arrivée, ses deux fils avaient disparu.
Nous avons fui avec le convoi et quand on s'est arrêté pour nous reposer, on a vu que mon fils manquait. Il dormait sur le toit de la voiture, sur les matelas, et il est apparemment tombé et s'est perdu. Mon second fils, lui, nous suivait à moto et il a disparu. On ne sait pas s'il a été capturé ou s'il a juste disparu. Il avait 20 ans.
Son mari a fait le tour de tous les hôpitaux d'Alep sans résultat. Le cas de Shinaz n'est pas isolé. Dans le bâtiment qui sert de salle de repos, Asman est plongé dans ses pensées. Son fils Mohammed, 18 ans, travaillait dans une clinique militaire lorsque les forces pro-turques ont attaqué.
Au moment où nous avons fui, nous n'avons pas pu attendre parce qu'on nous disait qu'il tuait des gens. J'ai essayé d'appeler Mohamed pour qu'il parte avec nous, mais il n'y avait plus de réseau. Je pensais qu'il avait peut-être fui avec son commandant ou avec le personnel médical.
Une larme coule sur sa joue. La veille, elle a eu des nouvelles par l'un des collègues de son fils qui était avec lui ce jour-là.
À l'issue de tirs croisés, cet homme a été blessé. Mon fils a été arrêté. Il n'a pas été blessé, mais il a été attrapé. J'ai demandé où il a été emmené. Il m'a répondu, je ne sais pas.
À l'extérieur, un jeune homme s'avance. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrerait son oncle entre deux hommes armés.
Ils l'ont forcé à porter l'uniforme alors qu'il était en vêtements civils et ils l'ont filmé. Il a été torturé et battu pour dire qu'il était des forces kurdes, pour qu'il puisse le livrer au service de renseignement turc.
Ces témoignages difficiles à vérifier se répètent pourtant dans tout le nord-est syrien. Ibrahim Cher, directeur du comité pour les droits humains de Shehba et Afrin, aide à collecter des informations.
Depuis que nous sommes arrivés, nous avons reçu des documents rassemblés par les gens et nous avons enregistré tous les noms. Nous sommes assez certains que plus de 350 personnes ont été kidnappées, mais au total, il en manque plus de 3000.
Les familles attendent des réponses et craignent le pire, mais parfois le miracle a lieu. Rachid avait perdu sa famille sur la route et vivait à Raqqa. Il l'a finalement retrouvé ici, la veille.
Mon frère Mohamed, quand je suis arrivé à Tabqa, j'ai pu le retrouver dans sa tente, avec ma sœur, mon père et ma mère. Grâce à Dieu, nous nous sommes retrouvés.
Marie-Charlotte Roupy, Camille Chly, RFI.
Et pour revenir sur la situation en Syrie, notre invité Arthur Kenney, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques et affilié à l'unité Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous revenez de Syrie, vous êtes revenu en France hier, vous vous êtes rendu dans le nord-est du pays. Dans cette partie si particulière de la Syrie, nous évoquions dans le reportage de Marie-Charlotte Roupy l'offensive turque dans la zone. Vous là-bas, qu'est-ce qui vous a le plus marqué après la chute de Bachar al-Assad ?
Alors le nord-est syrien, sitôt le Bachar tombé, a connu une offensive turque sur la ville de Manbij, qui est tombée il y a 10 jours de ça, et actuellement une offensive sur la ville de Kobané, qui a commencé. Les États-Unis essayent de maintenir un cessez-le-feu. Cependant, on sent les prémices de la guerre dans tout le nord-est syrien. Vous avez une vague de réfugiés massive, environ 40 000 déplacés qui viennent de Tel Rifat. Les écoles de Raqqa, de Kobané par exemple, sont pleines de réfugiés. Les hôpitaux commencent à être saturés, notamment à Kobané. Vous avez de nombreux blessés et morts du fait des affrontements avec la Turquie.
Et dans ce contexte, pourtant, un communiqué est paru ces dernières heures, celui du nouveau pouvoir en Syrie, qui dit vouloir contribuer à la paix régionale et construire des partenariats privilégiés. Vous aviez déjà dit récemment que les objectifs du HTS étaient notamment d'obtenir son retrait de la liste internationale des organisations terroristes. Washington semble avoir fait un premier pas en ce sens. Est-ce qu'il s'agirait pour HTS d'un premier pas pour devenir un acteur politique syrien de premier plan ?
Alors HTS est en train de se transformer en acteur politique en Syrie. Alors HTS, par contre, n'a pas grand-chose à voir avec l'attaque turque sur le nord-est syrien et sur Kobané. C'est plutôt une agression menée par la Turquie contre les forces du PKK en présence dans le nord-est. En revanche, HTS, comme vous le dites, suit une trajectoire de normalisation et ses dirigeants tentent du coup de au maximum de rentrer dans le droit international et d'être inclusif sur leurs relations aux communautés et puis aux populations syriennes et également entreprennent la construction d'un comité constitutionnel qui devrait se réunir cette semaine à Damas.
Et concernant le nord-est syrien, quel pourrait être l'impact de HTS ?
Alors HTS ne peut pas vraiment agir sur le nord-est syrien. HTS, on rappelle que c'est donc 15 à 20 000 hommes armés, très peu. Contre les Damas, Hama, Homs, Alep, c'est déjà quelque chose d'énorme pour eux. En revanche, ce que pourrait faire HTS, c'est continuer des déclarations d'ouverture aux autorités du nord-est syrien afin de les inclure dans la transition politique en cours et espérer, via cette transition politique, peut-être une médiation avec la Turquie.
Et justement, on a observé une certaine unité qui a été affichée, et ce pour la conquête de Damas. Est-ce qu'on constate déjà des coups de canif dans cette unité ?
Pas vraiment. Il y a des tensions, il y a de la compétition politique entre différents groupes, ce qui est normal. Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que le dialogue reste syro-syrien, ce qui est plutôt une bonne chose. La nomination des gouverneurs qui a été révélée hier soir montre que différents groupes donc se partagent la gouvernance de grandes villes comme Homs, Latakié, Alep, Damas, etc. Cependant, la transition politique est plutôt contrôlée pour l'instant par HTS, qui ensuite prévoit de s'ouvrir ces prochaines semaines dans des négociations avec les autres forces, premièrement les différentes factions armées syriennes qui ont fait tomber Bachar al-Assad, et ensuite vers l'opposition de l'étranger qui est en train de revenir.
Et justement, est-ce que vous croyez en ces futures discussions sur quoi est-ce qu'elles pourraient aboutir ?
Alors, il y a plusieurs travaux. Le premier, c'est l'urgence de la situation, donc les pénuries, les gens affamés, les salaires qu'il faut revaloriser. Tout ça, c'est le gouvernement de transition mené par Mohamed al-Bashir qui en est chargé jusqu'au 1er mars. Le deuxième travail, c'est former un comité constitutionnel afin d'engager des discussions sur l'avenir du pays. Alors, pas seulement la constitution, mais aussi les relations entre différentes communautés, le futur du rôle des institutions. Et enfin, troisième travail, ça va être tout ce qui est reconstruction d'un système, d'un appareil sécuritaire permettant de stabiliser la Syrie.
Et au niveau des institutions, qu'en est-il de la formation d'un futur gouvernement ?
Alors, le gouvernement de transition de Mohamed al-Bashir s'est donné jusqu'au 1er mars pour former ce gouvernement et ensuite mettre en place du coup une transition plus ouverte sur le reste de l'opposition. On est vraiment au début de ce processus. Hein. Bachar est tombé il y a moins de 10 jours.
Et justement, est-ce que des premières lignes directrices commencent à apparaître ?
Pas vraiment. Je veux dire, le HTS est plutôt en train de gérer une situation d'urgence. Les lignes politiques en termes idéologiques, etc., ne sont pas trop lisibles pour le moment. HTS fait plutôt des déclarations assez consensuelles, notamment envers les pays occidentaux, pour justifier cette transition politique, mais n'est pas forcément rentré dans le dur pour l'instant du sujet.
Merci à Arthur Kainé. Vous êtes donc docteur en sciences politiques affilié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et co-auteur du livre « Syrie, anatomie d'une guerre civile » aux éditions CNRS. Merci à vous.
RFI Midi.
RFI, 13h bientôt passé de 23 minutes ici à Paris. Et ce samedi, dans la chronique transport, nous nous intéressons au transport de l'électricité. Dans la guerre en Ukraine ou au Proche-Orient, les infrastructures électriques et énergétiques sont souvent la cible des missiles et des drones. Marina Mielzarek décrypte pour nous les enjeux géopolitiques et stratégiques du transport de l'électricité. Pour ce faire, elle a tendu son micro à Angélique Pall, experte internationale à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire à Paris.
Angélique. Bonjour.
Bonjour.
Grande spécialiste des réseaux électriques. Déjà, une question de novice. On la transporte par quels moyens ?
Alors, on la transporte par câble électrique. Il y a un réseau de transport et puis il y a un réseau de distribution qui achemine l'électricité principalement vers les consommateurs.
Les lignes à haute tension, donc, qu'on peut voir dans le paysage, ces lignes à haute tension, elles existent dans le monde entier.
Oui, tout à fait. Ça dépend des espaces. C'est-à-dire que l'Union européenne, par exemple, a choisi d'intégrer de façon très importante son réseau de transport d'électricité. Il y a d'autres États, aux États-Unis, où on pourrait avoir quelque chose d'un peu comparable, qui ont fait le choix, au contraire, d'avoir plusieurs réseaux. En Afrique aussi, on a des réseaux de transport d'électricité qui ne vont pas nécessairement être intégrés à l'échelle de la plaque africaine. L'Union européenne a choisi d'intégrer, à partir des années 90, son marché de l'électricité pour avoir des États qui puissent échanger entre eux. Et d'ailleurs, cette intégration, elle va au-delà des frontières politiques de l'Union. On a d'autres États qui sont connectés à la plaque européenne, dont par exemple l'Ukraine. Ça a d'ailleurs été un sujet lorsque, par exemple, les pays baltes ont choisi de rejoindre l'Union européenne. Il a fallu les débrancher de la plaque russe pour les rebrancher sur la plaque européenne.
C'est incroyable, ça.
Et ça a été tout un travail des équipes européennes de gestion du transport d'électricité pour assurer cette bascule et cette sortie des pays baltes du système post-soviétique pour les intégrer dans le système européen. La guerre en Ukraine, elle est venue remettre les réseaux de transport d'électricité un peu au cœur de l'attention, notamment sur un plan stratégique, parce que la Russie a une stratégie de déstabilisation et de destruction du réseau de transport d'électricité ukrainien. L'objectif derrière, c'est à la fois de toucher la population ukrainienne, sa capacité à résister à l'hiver, des questions d'approvisionnement.
On le voit avec les drones hein, qui visent des structures électriques.
Exactement. Et puis c'est aussi de toucher l'architecture de production ukrainienne. Production de guerre ukrainienne. Alors, on a travaillé sur les vulnérabilités du réseau. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a des questions, notamment par exemple, de changement climatique. On a des catastrophes environnementales qu'on observe de plus en plus sur le territoire européen.
Ça, on n'y pense pas, mais c'est vrai. Ça veut dire des tremblements de terre?
Plutôt des tempêtes ou des glissements de terrain, par exemple. Il y en a une deuxième. On fait la transition énergétique. On intègre des énergies renouvelables dans le réseau. Ça change aussi la façon dont le réseau il est constitué. C'est des énergies qui sont plus instables, plus variables. Elles produisent pas tout le temps. Il faut piloter la production renouvelable du réseau et ça, surtout dans un réseau qui est très intégré et où, quand on a un incident, eh bien, ça peut créer des effets de cascade.
Angélique Pahl, très pédagogue pour nous intéresser à un transport qu'on connaît très peu. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La chronique transport à retrouver, évidemment, sur le site www.rfi.fr. Nous parlons ce midi sur RFI de la culture coréenne qui brille aujourd'hui partout dans le monde. Et le récent prix Nobel de littérature décerné à l'autrice Han Kang va sans doute accentuer le phénomène. À domicile, la coréenne a déjà vendu près de 3 millions de copies. Mais désormais, c'est le marché international vers lequel elle va se tourner. Traduction, adaptation, le secteur du livre coréen se met en marche à la conquête de nos librairies. Reportage à Séoul, c'est
Le 10 octobre dernier, Han Kang remportait à la surprise générale le prix Nobel de littérature. Kang Yong-gyu est l'éditeur d'Han Kang. Pour lui, la reconnaissance internationale de la littérature coréenne était presque impensable.
Il y a quelques années encore, si l'on allait dans des librairies étrangères, la littérature chinoise et japonaise avait des sections dédiées, tandis que la littérature coréenne n'avait pas de section à part. Donc il y avait peu de chances d'attirer l'attention sur nous.
Cependant, le vent tourne et plutôt en faveur de la littérature coréenne, comme le reconnaît Kang Yong-gyu.
Depuis environ 10 à 20 ans, la culture populaire coréenne, la musique, l'art, le cinéma suscitent un intérêt mondial croissant. Avec ce prix Nobel de littérature, les œuvres d'autres auteurs coréens vont probablement recevoir également une attention accrue.
Effectivement, depuis le prix Nobel, Kang Yong-gyu a reçu de nombreux coups de fil d'éditeurs étrangers pour traduire ses romans. La traduction est évidemment nécessaire pour s'exporter. Pour cela, le pays s'est préparé depuis des années. Direction l'Institut de traduction littéraire où nous retrouvons sa directrice Song Soyeon.
Notre institut a été fondé en 1996 sous l'autorité du ministère de la Culture dans le but de présenter la littérature coréenne à l'international. Depuis qu'on a commencé, plus de 2500 œuvres coréennes ont été traduites en 42 langues différentes.
Au-delà de la traduction, l'Institut forme aussi des traducteurs dont la majorité sont des étrangers. Nous retrouvons Camille à la sortie de son cours. Elle étudie la traduction en français des œuvres coréennes.
Et on a un cours plus professionnalisant où on doit choisir chacune une œuvre coréenne qui n'a jamais été traduite en français. Il y a un éditeur qui recruté par l'Académie Exprès, on traduit des passages et on fait une présentation de l'auteur et du livre pour après pouvoir vraiment éventuellement proposer en France à des éditeurs. Donc c'est bien d'avoir ce retour d'un éditeur français.
Des cours donc pensés pour favoriser l'export de la littérature coréenne qui espère un jour rivaliser avec les auteurs japonais ou chinois dans nos librairies. Salio Fioretti, Séoul, RFI.
RFI, il est 13h passé de 28 minutes ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Dans un peu plus d'une minute à présent, l'actualité africaine avec Afrique Midi. Restez bien à l'écoute.
Sans cesse, nous nous battons pour protéger les journalistes. Sans limite, nous nous battons pour contrer la propagande. Sans jamais reculer. Sans jamais abandonner. Sans frontières. Mais pas sans vous. Nous avons besoin de vous pour défendre la liberté de la presse et votre droit à l'information. Faites un don sur rsf.org. Reporters sans frontières, fight for facts.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Comment se déroule le mariage traditionnel en pays Peul? Pourquoi le père de la mariée ne doit en aucun cas intervenir? La symbolique de la noix de cola et du sel gemme dans le processus. Nous plongeons ce week-end dans une cérémonie de mariage chez les Peul en Guinée.
Un jour au village avec Penaï Traoré, tout à l'heure à 13h10 TU sur RFI.